France Culture. Avoir raison avec Bertha von Suttner, Margot Le Ridon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle fut la première femme lauréate du prix Nobel de la paix, mais également l'une de ses inspiratrices. La pacifiste Bertha von Suttner, dont le portrait se cache peut-être au fond de votre poche, sur une pièce autrichienne de 2 euros arrivée jusqu'à vous au hasard du doux commerce, nous occupe toute cette semaine. Avoir raison avec Bertha von Suttner, épisode 3, réinventer le militantisme. Pour revenir sur l'engagement public de Bertha von Suttner au-delà de ses écrits, je reçois aujourd'hui Jean-Paul Vienne, président du Mouvement de la paix d'Isère et traducteur du livre de Brigitte Hamann, Bertha von Suttner, Une vie pour la paix. Bonjour Jean-Paul Vienne.
Bonjour.
Également avec nous en studio Julie Demel, autrice d'une thèse intitulée « Regard historique sur la diplomatie féminine entre la France et l'Autriche de la paix des dames au traité de Lisbonne » publiée aux éditions Peter Lang. Bonjour Julie Demel.
Bonjour.
J'eus bientôt épuisé tous les livres d'histoire que contenait la bibliothèque de mon père. Je demandai un ouvrage à notre libraire. Il m'expédia « L'histoire de la civilisation » de Thomas Buckle. L'envoi était accompagné de la note suivante. « L'ouvrage n'est pas encore terminé, mais les deux volumes que je vous adresse forment un tout complet. Leur publication produit un grand effet dans tous les milieux intellectuels du monde entier. Cet ouvrage est généralement considéré comme devant servir de base à une nouvelle conception de l'histoire. » Après avoir lu et relu ce livre, j'éprouvais la sensation d'un homme qui, ayant toujours vécu dans une étroite vallée, contemple pour la première fois, du haut d'un sommet voisin, un prestigieux paysage. Je ne dirais pas qu'il me fut possible de saisir toute la portée de cet ouvrage. Je ne dirais pas que de la cime élevée où je me trouvais transporté, je sus apprécier tous les détails du paysage. Mais je fus ébloui, subjugué. Ce passage de bas les armes, pour introduire le socle philosophique de l'engagement de Bertha von Suttner, Jean-Paul Vienne, pourquoi Thomas Buckle était-il si important pour elle ?
Eh bien, Thomas Buckle s'est fait l'ardent propagandiste, je dirais, du progrès qui était une notion qui ne s'imposait pas à l'évidence à cette époque-là, mais qu'elle a repris... Et qu'elle a confondu avec son rationalisme profond. Hein, elle avait également lu tous les auteurs de référence du rationalisme, à commencer par notre Descartes national, qu'elle avait, paraît-il, lu en son entier à l'âge de 13 ans. Il faut quand même, c'était une surdouée. Hein, et puis elle avait lu Kant, bien évidemment, hein, dont elle avait fait son miel. Elle se définissait elle-même comme une fille des Lumières, c'était l'expression en français, et elle avait repris tous les idéaux progressistes nés des Lumières du XVIIIe siècle et complétés donc par les Anglais, en particulier Buckle, au XIXe siècle. Hein, à quoi il faut ajouter... Et ça relève encore de la philosophie chez elle, l'adoption en son entier de l'évolutionnisme de Darwin, dont elle avait fait une arme de combat, en rappelant que Darwin était à son époque extrêmement clivant et que toute la partie conservatrice de la société et l'Église catholique en particulier rejetait en bloc. Hein, et elle s'en fit la défenseuse, tout également au nom des Lumières et de la science.
Alors, ce socle philosophique ainsi posé, il faut savoir que le premier engagement des époux Suttner lors de leur retour à Vienne après leur séjour dans le Caucase ne sera pas tout de suite l'engagement pacifiste, mais sera d'abord la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de la vague antisémite qui frappe alors l'Autriche-Hongrie ?
Oui, alors en France, elle a vu l'affaire Dreyfus. Elle est fervente lectrice de Zola, Hein, c'est un peu l'époque où ça sera le moment de J'accuse. Mais l'Autriche-Hongrie connaît une fervente, un antisémitisme assez important parce qu'il y a déjà donc des pogroms dans l'Empire tsariste. Et donc ces juifs là quittent. Quitte et se réfugie en Autriche-Hongrie, notamment donc ça va faire la richesse de la Galicie et ça va donc créer une vague antisémite assez importante. Et déjà à ce moment-là, Bertha von Suttner et son mari s'engagent pour la lutte contre l'antisémitisme.
Et alors que font-ils concrètement pour s'engager, Jean-Paul Vienne?
Alors, on va dire que la lutte contre l'antisémitisme, qui vient d'être évoquée, ça a été un peu son galop d'essai, hein, dans l'antisémitisme. Quand elle est rentrée à Vienne, après un séjour, un très long séjour en Géorgie, elle n'a plus reconnu sa ville, Vienne, qui était donc, comme on l'a dit, en proie à une vague d'antisémitisme sans pareil. Ça existait hein, avant, hein, mais c'était un antisémitisme de salon, je n'oserais pas dire distingué, bien évidemment, mais enfin, limité. Et là, tout d'un coup, ben, 9 ans après son départ, l'antisémitisme était devenu extrêmement violent, extrêmement brutal, et avait touché des quantités de couches de la société. Alors, son engagement a commencé d'abord, comme toujours chez Bertha, par des articles dans la grande presse de Vienne, et notamment dans la Neue Freie Presse, qui était le grand journal de référence. Si on veut, on peut comparer au Monde chez nous, mais en rappelant quand même que c'était un journal qui avait une diffusion géographiquement immense. Ça allait de Lemberg, alors aujourd'hui Lviv, en Ukraine, jusqu'à Sarajevo. Il faut rappeler quand même ce que c'était l'Empire austro-hongrois à l'époque. Et c'était un journal de référence dans lequel Bertha von Suttner a largement pu écrire, développer ses thèses. Et puis, comme ces articles ne suffisaient pas, elle a décidé, avec son mari, de fonder une société de lutte contre l'antisémitisme. Alors, dans son jargon interne, elle appelait ça anti-anti, c'est-à-dire anti-antisémitisme. Et puis, elle a imaginé une association, des conférences, une brochure, et bien sûr un cercle d'amis qui l'ont soutenu. Cela étant dit, cette association de défense contre l'antisémitisme lui a toujours apporté beaucoup de soucis et fort peu de satisfaction. Mais il n'empêche que ça a été son galop d'essai pour un autre combat, celui contre la guerre. Elle a appris, elle a fait son école de sa première école de militantisme dans cette association.
Oui, et alors, en quoi on va retrouver l'héritage de cette première expérience dans la suite de son combat pacifiste, Julie Demel?
Elle fait ses armes en France. Peut-être il faut raconter l'épisode où elle est secrétaire de Alfred Nobel en 1878. Elle trouve une annonce dans un journal. Elle va être donc pendant une semaine secrétaire de Alfred Nobel. Donc qui est Alfred Nobel? Donc c'est l'inventeur du dynamite, et il s'est aperçu que le dynamite c'est tellement dangereux que ça peut vraiment tuer des hommes, et c'est pour ça il s'est engagé donc par la suite pour le mouvement pacifiste. Et après, il y aura un deuxième voyage à Paris, beaucoup plus tard, en 89. Et là, elle fait donc la rencontre d'un certain nombre d'intellectuels français. Hein, et elle découvre surtout l'existence de l'Association internationale pour la paix et l'arbitrage, qui est une association anglaise. Et elle connaîtra aussi le pendant français de Frédéric Passy, qui est donc son maître de pensée. Hein, et par la suite, il y aura tout un engagement pacifique, militant.
Alors, son premier combat contre l'antisémitisme, elle le mène vraiment avec son mari Arthur Gundakar von Suttner. Le combat pacifiste, c'est son combat à elle. Comment l'expliquez-vous, Jean-Paul Vienne?
Oui, alors, à un moment donné, donc, elle est passée assez rapidement d'ailleurs au combat contre pour la paix, contre la guerre, hein, et elle a délégué en quelque sorte le combat contre l'antisémitisme à son mari Arthur, les deux soutenants formant un étonnant couple militant qui n'avait pas son pareil dans toute l'Autriche-Hongrie, et si j'ose dire même dans toute l'Europe. Enfin, il n'y avait pas de couple d'aristons en tout cas qui se soit engagé dans l'action militante comme le couple soutenant. Alors, effectivement, comme on vient de le rappeler, son premier contact avec l'action pacifiste, en rappelant que c'est elle qui a imposé le mot aussi. Hein, c'est un Belge qui a dû imaginer le mot, mais c'est elle qui l'a popularisé et qui l'a imposé jusque dans la presse, jusque dans les dictionnaires. Et elle a donc fait la découverte d'associations de paix. C'est pour la petite histoire, ce sont des écrivains français dans un salon de Juliette Adam là, qui Alphonse Daudet qui lui a enseigné ça, qui était un homme de droite d'ailleurs, parfaitement nationaliste, et du coup elle était tellement enthousiasmée par cette découverte qu'elle a rajouté un chapitre à un roman qui était en préparation, enfin qui était en cours d'impression même à Zurich, et qui s'appelle en allemand Das Maschinenzeit Alter, l'ère des machines, je traduis ça, qui n'a pas été traduit en français, et c'est bien dommage, hein, elle a ajouté un 9e chapitre, où c'est un roman très idéologique, très ambitieux, tellement ambitieux qu'elle l'a publié sous un pseudonyme, hein, Yeman, et elle a ajouté un 9e chapitre où l'humanité, où elle décrivait comment l'humanité, par des associations de paix, s'était débarrassée du fléau de la guerre. Ça a été sa première démarche, si vous voulez, ça a été ce 9e chapitre à ce roman. Et puis ensuite, eh bien, elle a publié le fameux roman des Waffenlieder, les Bas les armes, hein, qui a été vraiment le déclencheur de toute son action militante et pour le reste de sa vie, il faut dire.
Et alors, justement, après la publication de ce roman Bas les armes, dont on a largement parlé hier, elle va décider de se rendre au Congrès international de la paix de Rome en 1891. Qu'est-ce que c'est que ce Congrès international de la paix ?
Oui, il y aura donc successivement plusieurs conférences de la paix. Ça commence avec la Haye, parce que cette idée de la cour d'arbitrage, c'est une idée de Grotius. Donc c'est le père du droit international public. Et sur cette idée, il y aura donc des conférences à la Haye et le congrès à Rome. Rome, ça sera un tournant pour elle, parce que on s'aperçoit qu'il n'y a personne, il n'y a pas de représentant pour l'Allemagne et l'Autriche. Et là, l'Allemagne et l'Autriche est un pays très militaire. Il estime que seule l'arme militaire est la seule réponse à tout. Et elle va donc trouver là sa voie. Elle va publier un article d'appel dans la Neue, justement, comme il a dit monsieur, dans la Neue Freie Presse. Ça sera le 1er septembre. Et elle va demander à la bonne société autrichienne de Vienne de se rejoindre dans cette association de la paix. Et là, elle va trouver un allié précieux, hein, Hermann Fried, qui est donc un Viennois, un Autrichien, et il a l'avantage d'avoir une maison d'édition à Berlin. Et ça sera un tremplin très important pour elle, parce que elle a un réseau, elle va se forger un réseau pour publier ses idées, non seulement dans les journaux, mais aussi de publier ses romans.
Et alors, Jean-Paul Vienne, ces idées, quelles sont-elles très concrètement, les objectifs de cette association pour la paix, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça peut se résumer. D'abord, toute sa vie, elle n'a cessé de répéter le titre de son roman, « Die Waffenlieder », c'est-à-dire « Bas les armes », qui lui a servi de slogan de ralliement toute sa vie. Mais les objectifs qu'elle affichait étaient finalement simples à comprendre. Premièrement, le désarmement, dans un premier temps, la limitation des armements au niveau où ils étaient à l'époque. Alors, et puis, bien sûr, on passe au désarmement. Deuxièmement, des instances internationales de régulation, c'est-à-dire une assemblée permanente des États pour maintenir la paix et prévoir donc des instances de pour régler les litiges et les conflits qui pourraient apparaître, donc un tribunal, d'abord une cour d'arbitrage comme on a dit tout à l'heure, et des tribunaux éventuellement pour juger les exactions possibles. Ainsi d'ailleurs elle a imaginé tout de suite une police internationale, on va dire l'ancêtre de nos casques bleus, bon, elle n'a jamais appelé ça les casques bleus, elle appelait ça une police internationale ou une police de paix. Et le troisième volet de ses revendications militantes, c'était l'éducation à la paix. Alors, vous voyez que dans son milieu aristocratique autrichien, et c'était pareil en Allemagne, et d'une certaine façon d'ailleurs en France aussi, hein, l'aristocratie formée des cadres nombreux pour l'armée était très militarisée, hein, et il convenait de lutter dès la prime enfance contre cet esprit militariste qui s'emparait des garçons et éventuellement aussi des filles. Hein, elle avait, par exemple, dans son roman, on voit que il y a la dernière partie de son roman bat les armes, je ne sais pas si on l'a dit, c'est l'éducation à la paix. Elle éduque, une fois devenue veuve de guerre, elle éduque son fils Rodolphe à la paix, elle interdit les jouets guerriers, elle l'éduque aux droits de l'homme, au respect de l'autre dans sa différence, des combats qui sont toujours actuels d'ailleurs. Voilà, donc c'est trois mots d'ordre, je répète, le désarmement, la régulation des rapports internationaux et l'éducation à la paix.
France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Marco Loridon.
On est avec vous, Jean-Paul Vienne et Julie Demel, pour parler de l'action militante de Bertha von Suttner. Une action qui l'a conduit jusqu'aux États-Unis, où elle est notamment reçue par Theodore Roosevelt en personne. Quel rapport elle entretenait avec les chefs d'État ?
Alors d'abord, je commencerai par les rapports qu'elle n'a pas eus, c'est-à-dire dans son propre pays. Hein, elle a toujours cherché le contact avec les ministres et surtout l'empereur François Joseph. Elle n'a connu que, pendant toute sa vie, elle a vécu 71 ans, on va dire qu'elle n'a connu qu'un seul empereur, hein, pour rappeler ça, qui était une espèce de monument, si on veut. Bon, elle a cherché le contact avec les autorités autrichiennes et elle ne l'a jamais trouvé. Il faut dire, hein, et pas plus d'ailleurs, encore moins en Allemagne. Alors, cela dit, elle a été reçue, elle était quelquefois reçue comme une reine à l'étranger. Ce fut le cas lorsqu'elle a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo, qui s'appelait pas Oslo à l'époque. Et donc elle a été reçue par le tout nouveau roi de Norvège. Alors Norvège avait même pas un an, je crois, à cette époque-là. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais simplement dire qu'elle a personnellement permis d'éviter une guerre entre la Suède et la Norvège. Juste à ce moment-là, elle était en voyage entre Oslo et Stockholm et qui s'étaient tous les deux armés pour se faire la guerre. Et elle a réussi à intercéder utilement et concrètement entre ces deux pays. Elle a été reçue comme une reine également au Danemark. En France, je note, bon, elle n'a pas été reçue par le président de la République, mais elle a tout de même été reçue lors d'un congrès de la paix à Rouen. En 1903, c'est le ministre des Finances de l'époque, qui devait s'appeler Rouvière, je ne dis pas de bêtises, qui est venu la chercher en voiture officielle. Au passage, elle était assez contente de monter dans une voiture pour la première fois de sa vie. Hein, et elle a été accueillie par un ministre français, ministre des Finances. C'était pas rien pour elle. Elle dit, c'est pas en Autriche-Hongrie, ça m'arriverait. Et elle a été reçue à deux reprises aux États-Unis par un président, une première fois par le président Theodore Roosevelt, ça devait être en 1904, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et une deuxième fois lors de son deuxième voyage, qui fut bien plus long et bien plus triomphal encore, en 1913, par le président Taft, William Taft. Hein, et chaque fois, elle faisait la réflexion, mais c'est pas en Autriche-Hongrie que ça m'arriverait.
Et alors, elle a aussi, Julie Demel, été reçue par le prince Albert Ier de Monaco. Vous vous êtes notamment intéressée à leur relation. Pourquoi cette relation était-elle importante ?
Oui, parce qu'il y a deux personnes. Elle cherchait plutôt les princes. Enfin, s'il y avait un prince, elle cherchait ce milieu-là. Mais le prince de Monaco avait initié donc des conférences. Elle l'avait rencontré à la conférence de La Haye et il était en train de créer l'Institut international de la paix. Et donc de 1901 à 1906, elle a été été invitée à Monaco. Et là, elle a quatre hivers de suite. J'ai passé plusieurs semaines en tant qu'invitée du prince de Monaco dans son château sur le Rocher et je me suis entretenue avec d'éminentes personnalités du monde, des princes, des savants, des diplomates et des artistes. Donc là, elle a créé, noué des relations très utiles pour la suite. Donc c'était quand même un esprit libre et elle était soutenue quand même par une personnalité importante.
Et le combat pacifiste d'Albert Ier, il venait d'où ?
Alors, c'était quelqu'un très ouvert d'esprit et il s'intéressait à la conférence de la paix, à ces mouvements pacifistes. Bon, il y avait quand même un zeitgeist, hein, comme on dit. Hein, il y avait quand même un air du temps, hein, comme on dit. Et il y a aussi Frédéric Passy, donc ce prof de droit, d'économie, hein, qui est donc professeur d'université de Montpellier, qui avait publié un certain nombre d'articles, dont d'ailleurs Jean Jaurès s'inspire. Hein, donc il y a une lettre qui existe de Jean Jaurès qui se réfère à Frédéric Passy, donc c'est une personnalité très importante.
Oui, alors justement, je voulais y venir parce que dans un tout autre genre, Bertha von Suttner dialogue aussi avec Jean Jaurès, Jean-Paul Vienne, Jean Jaurès qui partage sa croisade pacifiste et qui meurt comme elle quelques jours avant le début de la Première Guerre mondiale. Quelle est la nature de leur relation ?
Jean Jaurès et Bertha von Suttner, on va dire, partageaient absolument les mêmes idées. Alors il faut quand même préciser que Bertha von Suttner n'a cessé, durant toute sa vie militante, peut-être même avant, de se rapprocher du socialisme, on va dire. Hein, du socialisme qui serait plutôt d'ailleurs la social-démocratie, il faut dire. Alors elle était assez méfiante vis-à-vis des socialistes allemands, Bebelec et des socialistes anglais aussi, qu'elle trouvait beaucoup trop dogmatique, qu'elle ne comprenait pas, pour tout dire, hein, et elle ne comprenait pas bien non plus, enfin c'était un peu contraire à son idéologie, la lutte des classes. Pour elle, elle rêvait d'une espèce d'harmonie universelle qui excluait d'une certaine façon la lutte des classes et en tout cas la violence. Mais le socialisme de Jean Jaurès, sans compter le socialisme du parti socialiste autrichien aussi, il faut dire, Victor Adler, hein, qui était assez proche de celui de Jean Jaurès, lui convenait bien et elle, de plus en plus, elle considérait que d'un point de vue politique, seuls les socialistes défendaient sérieusement la paix et qu'il fallait pas compter sur les partis bourgeois qui trahissaient régulièrement la cause de la paix. Alors, elle s'est rapprochée, elle a fait la connaissance de Jean Jaurès, je crois, à la première conférence internationale de la paix de La Haye, en 1899. Hein, et ensuite, ils sont restés très liés. Jean Jaurès lui envoyait tous les numéros. Alors, on rappelle qu'il a fondé l'Humanité en 1904. Bertha von Suttner avait toujours rêvé de fonder un journal avec le même cahier des charges, c'est la défense de l'humanité, défense des droits fondamentaux, défense de la justice sociale, partout, et défense de la paix, naturellement, partout sur la Terre. Elle n'y est pas parvenue, elle était une journaliste dans l'âme, mais elle n'a pas réussi à faire ce que Jean Jaurès a réussi. Donc elle admirait son humanité, et Jean Jaurès lui envoyait régulièrement tous les numéros de l'Humain, où il faisait un éditorial sur la paix ou pour lutter contre l'armement, le surarmement, les conflits qui éclataient nombreux à droite, à gauche, partout. Hein. Et elle a également été encore plus proche de Jean Jaurès lors de son, en 1905, lors des débats en France sur la séparation de l'Église et de l'État. Je crois que les débats ont duré 9 mois, hein, de février à décembre 1905, et elle en faisait Alors, elle lisait la presse française abondamment, et pas seulement l'Humanité, et elle en faisait régulièrement un compte-rendu dans la presse de Vienne. Tous les semaines, elle faisait un compte-rendu de nos débats. Nos débats sur la séparation déguisée de l'État, hein, et elle en a fait un compte-rendu général qu'elle a envoyé naturellement à Jean Jaurès en décembre 1905, hein, et elle a terminé, voilà ce qu'il nous faudrait en Autriche-Hongrie, mais on en est encore tellement loin. Hein, et voilà. Et ils n'ont pas cessé donc de rester en relation et se sont retrouvés au congrès de la Haye en 1907, je crois.
Oui, parce que en effet, on trouve pas mal d'attaques contre le cléricalisme dans les différents écrits de Bertha von Suttner. Pour autant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une militante laïque ?
Elle est déjà très en avance de son temps, parce que l'Autriche, à l'époque, était quand même très renfermée, et c'était géré par ses militaires et le clérical. Mais je pense que c'est une grande penseuse du libéralisme, parce que le libéralisme, il n'était pas autrichien, hein, je veux dire, il était français, hein, c'était Frédéric Passy. La France était libérale, l'Autriche n'était pas du tout... Elle était
libérale au sens où on l'entend dans les pays anglo-saxons. Hein.
Oui, pas au sens économique strictement, donc. Bertha von Suttner a finalement obtenu le prix Nobel de la paix en 1905, vous l'avez dit. On a mentionné sa très courte expérience de secrétariat auprès d'Alfred Nobel avant son mariage avec Arthur von Suttner. Mais ils ont gardé une relation et au-delà d'avoir obtenu le prix Nobel, elle a aussi influencé sa création même. Quel a été son rôle dans l'imagination de ce prix ?
Oui, donc elle était très liée à Alfred Nobel et elle a initié ce prix. Alfred Nobel qui est donc mort avant que le premier prix soit décerné à Henri Dunant, que l'on connaît pour son action pour la Croix-Rouge. Hein,
à Solferino. Et Frédéric Passy,
oui, effectivement, il y en avait deux qui ont eu le premier prix Nobel. On se rappelle que, bon, la grande Marie Curie, elle avait eu le prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911. Donc ça, c'est la première femme. Mais Bertha von Suttner restera la première femme qui a eu le prix Nobel de la paix en 1905. Donc elle a eu elle-même le prix qu'elle avait quand même un petit peu initié.
Et oui, Jean-Paul Vienne, sur cette initiation ?
Oui, alors, je dirais même qu'elle a eu le prix Nobel de la paix deux fois. Hein, deux fois. Donc, une première fois en 1905, qui lui était attribuée à elle-même, nominalement. Et puis, en 1910 ou 11, je ne sais plus, on n'a pas encore beaucoup évoqué son action internationale jusqu'à présent. Hein, et je rappellerai que dès 1891, elle a été l'une des fondatrices, elle n'était pas tout à fait la seule d'ailleurs, du Bureau international de la paix, qui avait son siège à l'époque à Berne, et puis qui ensuite a descendu son siège un petit peu plus bas à Genève. Hein, et c'est le Bureau international de la paix, je ne sais plus si c'est 1910 ou 1911, qui a reçu son enfant, on va dire, qui s'est vu décerner le prix Nobel de la paix. Hein, donc on va dire que elle a reçu le prix Nobel pratiquement deux fois.
Merci beaucoup Julie Demel et Jean-Paul Vienne. Les références de vos ouvrages sont disponibles sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On se retrouve demain pour continuer à explorer l'héritage de Bertha von Suttner. Je recevrai Marie-Claire Houck-de-Marle et Antoine Jacob pour évoquer sa vision de l'Europe. C'était Avoir raison avec Bertha von Suttner, une émission préparée avec Henri Leblanc, réalisée par Olivier Bétard et mise en monde ce matin par Alexandre Dang.